Je souhaiterais tout d'abord remercier Victor Stoïkita de l'aimable proposition qu'il m'a faite de venir dialoguer avec lui sur le thème de l'Europe et du paradigme de la texture, du tissage, du tissu. C'est du moins ce que j'ai pris en considération à partir de la leçon inaugurale que vous avez sans doute suivie. Et je le remercie d'autant plus qu'il sait que mon travail en cours ne correspond pas a priori à cette problématique. Il porte en effet, comme on vient de le dire, sur les monuments au roi de France dans l'espace public à l'époque moderne. Ce qui veut dire, pour faire une allitération un peu facile à vertu pédagogique, plutôt sur le lieu que sur le lien. Mais le travail autour des projets du Bernin que nous venons de voir montre que l'on ne peut pas exclure l'un et l'autre, qu'il peut et il doit y avoir circulation pour penser, déterminer le point fixe qu'est le monument. Un aspect des jeux donc que la notion d'Europe invite à penser. Le rapport complexe entre le « un » et le multiple, l'Europe, les différents pays, le semblable et le différent, l'homogène et l'hétérogène. Et ces questionnements ont tous à voir avec la question du monument royal en tant qu'il est image de pouvoir, car il doit produire, il doit montrer l'unité, celle du monarque, celle du pays, le tout à l'intérieur d'un ensemble stable de références qu'on peut à bon droit appeler l'Europe, car c'est en effet à elle que l'on se réfère pour définir un degré de notoriété, un haut degré de quelque chose. Ainsi, pour le Bernin, tel que décrit par Chanteloup, que nous avons suivi pas à pas, il est le plus habile homme de l'Europe, ce Bernin. Il travaille pour le plus noble palais de l'Europe. Et quant à son buste, il n'y aura rien de pareil dans l'Europe. Il y a donc ancrage dans une culture commune dont le tuf est, pour l'imagerie profane qui va me retenir, l'antiquité gréco-romaine se traduisant par le règne sans partage pour le monument royal dans l'espace public de l'effigie sur un piédestal. Et je vous donne ce que vous connaissez bien, la terrible copie en plomb du monument équestre à Louis XIV par le Bernin. Cette victoire de l'unité donc se manifeste dans la structure même où un individu est accompagné par la pluralité de ce qui vaut comme des attributs, dans un premier temps la montagne qui correspondait à l'ensemble des obstacles contre lesquels il avait à lutter, donc des attributs, et sur cette approche logique qui est la mienne, je vous propose de l'associer à ce qu'on appelle depuis Aristote la logique des prédicats, c'est-à-dire une proposition, un thème, ce dont on parle, un prédicat, ce qu'on en dit, et à propos même du monument en tant que tel, on va le commenter comme si monument en soi, c'était évident, et ça ne l'est absolument pas. Or, cette question de l'évidence est essentielle, sitôt que l'on parle de pouvoir, puisque le pouvoir tend à se présenter toujours comme évident. C'est normal, je dirige la France. Vous voyez à qui je pense. En opposition à cette fausse unité, la pluralité, en opposition au semblable, l'idiosyncrasique, le vernaculaire, en opposition à l'homogénéité, il faut pouvoir penser l'hétérogénéité. Et je reprendrai notamment cette notion qui est peu employée en histoire de l'art, parce que Furtière, dans son dictionnaire universel, donne une définition qui m'intéresse. Les corps naturels sont homogènes, les corps artificiels le sont de parties hétérogènes ou de qualités différentes, comme un bâtiment de pierre, de bois, etc. Donc, ce dont nous avons parlé, ces artefacts que sont les monuments, ils sont effectivement hétérogènes, et comment ces éléments hétérogènes, vont-ils donner cette image d'unité? Et c'est d'autant plus nécessaire que ces monuments extrêmement complexes font appel à toutes sortes de compétences, architectes, sculpteurs, maçons, marbriers, etc., qu'ils sont vus sous des angles différents, qu'ils correspondent donc à des intérêts différents. Et je prendrai au sérieux ce terme d'intérêt en ce qu'il permet d'articuler l'investissement personnel d'un certain nombre d'individus et puis la question de l'attention que l'on porte. Et cette question de l'attention au monument, on sait depuis Musil qu'elle est paradoxalement tout à fait problématique lorsqu'il part de ces monuments, pour ainsi dire, imperméabilisés à notre attention. Combien sommes-nous à regarder la statue qui est juste devant le Collège de France ?
Bien. Et donc cet enjeu sur l'intérêt à la fois personnel et perceptif, eh bien, me semble intéressant. Alors, vous allez dire que j'aime un peu trop les notions philosophiques, mais c'est surtout qu'on utilise les grands esprits pour essayer de classer les choses, ces phénomènes complexes. Et là, je m'appuierai sur Kant, qui dit quoi dans la raison pure ? Troisième analogie à propos de l'expérience, il dit qu'il faut penser ce qu'il appelle en allemand la Gemeinschaft, hein, la communauté, peut-être. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il dit qu'on essaie de penser quelque chose. Par exemple, est-ce que j'ose dire ce pupitre ? Je peux le décomposer en parties pour l'étudier. Et puis, je peux le considérer dans sa totalité, dans l'impression générale qu'il dégage. Eh bien, dans son langage, il y a d'un côté ce qu'il appelle le comercium en latin, c'est-à-dire qu'il traduit par une communauté dynamique, hein, « dynamische Gemeinschaft », c'est-à-dire les liens qui s'opèrent, que je vais opérer entre les différentes parties. Et pour ce qui est d'un monument, c'est la question justement de ces parties qui va être particulièrement problématique dans l'étude que j'ai à mener, puisque tout a disparu, il ne reste que ces parties, que ces disjecta membra, comme on dit, du monument. Et puis, il y a l'autre approche qui est ce qu'il appelle la communauté globale, locale Gemeinschaft, et en latin communius patii, c'est-à-dire cette approche que je vais qualifier de synthétique, parce que vous voyez se dégager une espèce de polarité qui est très forte en Occident, synthèse, analyse, ou analyse et synthèse, discontinuité, continuité, figure et fond, lieu et lien, encore une fois. Et tout cela à propos de cet ensemble complexe qu'est le monument, encore une fois, à partir de ces éléments, hein, c'est tout ce qui reste de ces si nombreux monuments des rois de France conservés en France, puisque durant la semaine après le 10 août 92 hein, et la chute effective de la monarchie, le peuple parisien va détruire tout cela avant que ce soit fixé par un édit du 14 août 1792, mais il faut aller très loin, et j'irai loin, en hommage aussi à la trajectoire décrite par Victor Stoïkita de l'Italie à la France. Et bien moi, pour rendre compte des monuments de France qui ont disparu, je vais aller à Copenhague, étudier ce monument de Jacques Sally, hein, à propos du roi du Danemark, Frédéric V, pour essayer de rendre compte de cette triple hétérogénéité que je vais essayer de décrire, hétérogénéité dans le processus de création, les différents acteurs, hétérogénéité interne, on va le voir, du monument lui-même, et puis la pensée d'une expansion à partir de ce monument, toujours à partir d'éléments différents qui sont censés dire, paradoxalement, l'unité du pouvoir. Donc, premier point, ce qui concerne le processus de création, cette unité que l'on doit poser sitôt que l'on parle du pouvoir, et là aussi, à des fins didactiques, mais je ne sais pas si c'est très efficace, je vous demande d'être attentif à la formule qu'on a tendance à employer, ce qu'on va dire « un monument du roi ». Je crois qu'on va dire plutôt le monument du roi. Et ce « le », cet article défini, dit beaucoup de choses en lui-même. Hein, si on fait un tout petit peu de sémantique, hein, on entend dans le terme son étymon, hein, son origine latine, « il est », qui est à la fois une valeur déictique, hein, c'est-à-dire quelque chose que l'on montre, et qui correspond au fait que c'est fait pour être vu, selon le registre de l'évidence que j'ai évoqué, dans lequel vous entendez à la fois une dimension logique, hein, il n'y a pas besoin d'expliquer les choses, et une dimension visuelle, c'est sous nos yeux, c'est patent, comme on dit. Et puis, une autre valeur de cet étymon « il est », qui est présent également en français, c'est la valeur laudative, hein, quelque chose de bien, de grand, et c'est effectivement ce qui est associé à une dimension fondamentale de la culture occidentale présente le monument, c'est la question de l'excellence, du haut degré. Et depuis Vasari, les più eccellenti, scultori, pittori, etc. Hein. Et dans cette logique de l'excellence, on fait venir le meilleur sculpteur possible, en l'occurrence le Bernin, en France. Et c'est à cause de cela aussi qu'un Sali va pouvoir se retrouver de l'autre côté en prenant donc appui sur des réalisations considérées comme parfaitement réussies, en l'occurrence l'ancienne version du monument Henri IV, hein, pas la version de Le Mot actuelle qui date de la Restauration, mais l'ancienne version qui est une collaboration, hein, puisqu'il faut mettre l'accent là-dessus, cette hétérogénéité de l'équipe qui est à l'origine de tout cela, Gian Bologna, Pietro Tacca, et puis un projet global d'un dessinateur qui s'appelle Cigoli, et puis ensuite des Français, Franqueville, Thomas Boudin, etc. La liste est longue et j'insiste parce que c'est, encore une fois, une œuvre collective. Qui permet de réaliser quoi ? Eh bien, quelque chose qui s'appuie sur des modèles, en l'occurrence, ici, le Marc Aurèle, et ça nous renvoie à une des premières acceptions de cette Europe que Victor Stoïkita nous invite à méditer. Eh bien, ce serait notamment ce lien avec des paradigmes antiques qui est ici présente. Et puis, ensuite, eh bien, ce que fait l'homme qui envoie en France à sa cousine Marie de Médicis le cheval, en l'occurrence Ferdinand Ier, grand-duc de Toscane, qui lui-même est honoré ici. Et puis, je vous l'ai dit, ce Cardi, qui se fait appeler Cigoli, qui propose un ensemble qui ne sera pas respecté. Vous voyez à quel point c'est une œuvre, je ne sais pas si j'ai la main, non, pour pointer au milieu les harpies maniéristes qui vont disparaître et qui posent la question de l'adéquation à des goûts nationaux à l'intérieur de cette circulation générale des modèles. Et puis, par ailleurs, eh bien, ce qui se manifeste sous la forme de l'introduction de notre affaire d'Europe à l'intérieur même du monument. Hein. C'est-à-dire que la question est à poser, évidemment, dans l'équipe constituée par l'ensemble de ceux qui collaborent au projet, mais aussi dans le cas même où l'équipe est plus resserrée, ici Jules Hardouin-Mansart, l'architecte pour la structure générale, Girardon pour la sculpture, eh bien, penser notre affaire d'Europe sous la forme telle qu'elle est ici, d'un motif, hein, vous la voyez à gauche, avec la tiare et la couronne, hein, selon une iconographie là aussi stable à l'échelle de l'Occident, puisque dans cette allégorie de l'Europe de Corrado Giaquinto, vous retrouvez le même type de composition. Et si je vous montre, évidemment, juste en passant cette image, celle-là, c'est pour que vous soyez bien sensible au fait que ces images de pouvoir sont des potentialités, c'est-à-dire que ça aurait pu être autrement, que tout cela est à penser dans une sorte de spectre défini par un certain nombre de contingences elles-mêmes hétérogènes. Ça peut être le goût du temps, la mode joue un rôle important, l'émulation, la comparaison, la dimension financière, évidemment, qui en l'occurrence ici prévaut. Vous voyez comment on passe du système complexe que l'on a vu, ici par exemple, donc une Minerve, une renommée, et puis les quatre vertus, pour arriver à ce qui sera définitivement fait, c'est-à-dire cela est une étape ensuite, rien du tout, rien du tout. Et soit vous dites, et ça n'est pas clair dans les textes, ce source, hein, qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, on le sait, mais on peut toujours en trouver, soit il s'agit d'une nouvelle esthétique, de l'épure, de la sobriété, de la prise de distance vis-à-vis du bavardage considéré comme indécent qui régnait Place des Victoires en 1686, hein, et qui a été très très mal reçu, pour le coup, à l'échelle de l'Europe. Donc, dans le spectre large de ces possibles liés à un processus de création complexe, à peu près tout, dans tous les cas, eh bien, vous le voyez, Sali lui-même, qui nous offre une statue absolument dans l'état dans lequel elle était lorsqu'il l'a achevée, eh bien, met cette période très longue de 18 années pour réaliser cet ensemble. Et cela traduit assez le degré de complexité, lors même que nous sommes dans un cas de figure relativement simple, où le sculpteur est l'inventeur, comme on dit, de l'ensemble du projet, responsable et de l'effigie, et du piédestal, et du programme du piédestal. Eh bien, tout cela reste très complexe. Alors, là aussi, il s'agit de ressentir toutes les tensions qui sont présentes derrière cela, puisque ça aurait pu être tout à fait différent. En l'occurrence, un Allemand, mais le Danemark et l'Allemagne sont très très proches. Tous les dirigeants réels du Danemark sont allemands à l'époque. Et ici, ce Karl Markus Tuscher propose une version qu'on dirait pudiquement berlinesque, pour le coup, avec des enrochements à la base, une fontaine, de fait, avec la dimension édilitaire, comme on dit, d'utilité de la fontaine, et qui ne sera pas acceptée. Et ce que l'on voit dans les textes hein, qui ont été conservés, c'est par exemple ceci, vous voyez, ça se passe entre Allemands, Bernstorff et Wasserschlebe, qui, très précisément, demande, donc à Bouchardon qui est en train de réaliser la statue de Louis XV en France, s'il peut venir, et ensuite le critère que vous croyez le plus habile, quand je vous parlais du modèle de l'excellence, hein, on choisit toujours l'excellence, eh bien il est, c'est un des critères qui est ici utilisé, et puis du coup ben, Sally sera accepté par l'administration locale, il souhaite et l'on souhaite qu'il se rende sur place, notamment pour cela. On reprend la question développée par Victor Stoikita de la ressemblance. On va faire un portrait le plus ressemblant possible. Et on va le faire de façon à ce que le modèle lui-même, le roi, puisse l'examiner. L'esquisse et les modèles qu'on ne saurait transporter seront vus et examinés par le roi même. Et c'est ce qui légitime la venue à Copenhague, de l'homme en question. Et pour le portrait, au reste, il faut bien que celui qui doit faire la statue du roi fasse auparavant lui-même son buste et son portrait afin de ne pas manquer la ressemblance. Donc, nous sommes dans un ensemble tout à fait cohérent. On aurait tendance à dire que l'affaire est faite autour de la figure du roi. Or, sitôt que l'on regarde un petit peu les textes, on se rend compte que ce magnifique personnage, encore une fois, repris d'un point de vue morphologique des plus grands modèles et des plus grands dirigeants, effectivement, de l'Antiquité, Marc Aurèle, et du présent, eh bien, c'est un ivrogne qui boite, qui aime beaucoup, beaucoup les dames, et qui travaille très très peu, et qui laisse tout son travail aux Allemands, dont vous avez vu les noms, autour de lui. Et donc l'écart ne peut pas être plus grand entre la réalité et la représentation, hein, c'est bien clair, mais et c'est d'autant plus intéressant que ça n'est même pas la construction que nous connaissons en France d'un ministre qui, évidemment, gère ses propres intérêts, c'est bien clair, en faisant faire ses œuvres. Mais là, nous rentrons dans le monde nouveau de la sécularisation d'un XVIIIe siècle, des intérêts financiers. C'est ce dénommé Moltke, qui est à la fois une sorte de premier ministre, est à la fois le directeur de la Compagnie des Indes Orientales qui finance tout cela. Je n'ai pas dit Total. Je n'ai pas dit British Petroleum, c'est la même chose, vous voyez ce que je veux dire. Nous sommes dans le cadre de ces étranges, toute comparaison est stupide, pardonnez-moi, mais dans le cadre de ce rapport au pouvoir qui est tout à fait différent, avec un pouvoir économique qui est désormais extrêmement présent, lié aux politiques, de façon à définir eh bien, une toute autre entité que celle du monument tel qu'on le considérait jusqu'ici. Alors, si je le mets en rapport avec un monument un peu plus tardif proposé par le grand sculpteur Houdon et un architecte Jaillet de Savoie pour Brest, eh bien, se pose la question de justement ce que l'on va choisir comme lieu. Et là aussi, c'est pour montrer les tensions, hétérogénéité, les tensions qui peuvent exister entre des pouvoirs différents, en l'occurrence le pouvoir central et le pouvoir local. à Copenhague, pas de problème, c'est un nouveau quartier qui vient d'être créé, on met la statue, qui s'appelle Frederikstaden, et on met la statue au milieu. En France, la tension entre pouvoir local et pouvoir central est importante, et si j'ai bien compris, elle le reste toujours. Et également, ce qu'il faut prendre en considération, c'est ce que je vais associer à Daniel Defoe, que vous connaissez bien pour Robinson Crusoe, mais qui est l'auteur de ce petit ouvrage extrêmement important qui s'appelle « An Essay Upon Projects » de 1697, qui dit quoi ? Eh bien que désormais, le rapport au temps, le rapport à la réalisation de quelque chose est différent, une individualisation des initiatives. « Projects », c'est avant tout de faire de l'argent, hein, les différents moyens de faire de l'argent. Project. Mais c'est en même temps un modèle économique nouveau, hein, c'est le capitalisme qui se met en place, libéralisme au sens le meilleur ou le pire, initiative personnelle permettant de réaliser telle ou telle chose. Et Daniel Defoe thématise tout cela dans ce petit ouvrage qui me semble correspondre à l'efflorescence des projets réalisés ou non que l'on connaît tout au long du XVIIIe siècle. Alors dans quel cadre ? Eh bien de celle d'une hétérogénéité du monument lui-même, mon deuxième point, et c'est mal parti pour simplifier puisque vous voyez que Jean Chapelain, qui était l'homme qui avait la liste des pensions sous Louis XIV, c'était pas rien, vous voyez, quel argent on donne à qui, etc. Donc il va en fait fonder plus ou moins en 63 la petite académie, la future académie d'inscription et belles-lettres, et il propose tout cela, vous voyez, comme moyen de dire la gloire du roi. Pyramide, colonne, statue équestre, colosse, etc. Vous voyez où on est, nous, si j'ose dire, statue équestre, ça n'est qu'une forme parmi tant d'autres pour dire la gloire du roi. Et si les choses n'étaient pas suffisamment complexe comme ça, il faut prendre en considération tout ce qu'il y a derrière d'un point de vue de la posture adoptée par les artistes, hein, le fait qu'ils parlent de partie des arts, la composition, le coloris, le dessin, etc., qu'ils parlent de partie, cette fois sans eux, hein, partie des arts féminin, partie sans eux. Le parti, c'est l'orientation générale, c'est la conception générale que l'on a. Et vous voyez, sans tomber dans l'abysse des jeux de mots multipliés, mais quand même, hein, toutes ces parties disent bien la complexité de la chose aux différents stades, me semble-t-il, que nous avons à rendre compte. Et la question du tout ensemble, qui vaut pour la composition générale, mais aussi ce qu'on appelle l'ensemble pour à l'échelle de la figure, cette tête est bien ou mal ensemble, eh bien tout cela affecte à l'intérieur même la représentation. Et cela correspond à quoi ? À la grande idée d'une unité liée à une maîtrise. Hein. L'unité n'existe pas en tant que telle. Le roi est un grand roi parce qu'il se maîtrise. Et le petit cheval de Dürer, ça n'est jamais que l'image. Hein. On parlait de psychomorphe, d'objet psychomorphe, en voilà un. C'est l'ensemble des instincts qu'un individu de qualité doit être capable de dominer. Et avant tout, évidemment, un roi, noblesse oblige. Et dans tout cela, eh bien, l'écho du célèbre vers de Cinna de Corneille, hein, « Je suis maître de moi comme de l'univers », résonne très fortement. Il faut peut-être entendre la suite, hein, qui est moins connue, « Je le suis, je veux l'être ». Ouh là là, un volontarisme problématique qui veut dire que le magnifique énoncé du premier temps, « Je suis maître de moi comme de l'univers », comme on dit dans ces cas-là, c'est prescriptif, est-ce que c'est descriptif ? Bien. Et du coup, une sorte de prise en considération d'un chaos premier, qui est celui de la création, et nous avons la chance extraordinaire, vous voyez, j'ai triché comme tout chercheur, je vais chercher les choses où il y a des sources, bien évidemment, et Sally a écrit deux lettres à Marigny, le directeur général des bâtiments, le ministre des Cultures, si on veut, des Beaux-Arts, à l'époque, dans lesquelles il décrit tout cela. Et il dit bien, c'est trouble. Les pensées se présentent en foule et s'entrechoquent, pour ainsi dire, les unes aux autres. Mais lorsque le feu poétique commence à laisser la place à la réflexion, etc., c'est bon, on arrive à la grande et noble simplicité. Tout le monde entend ici Winckelmann, Edle Einfaltungsstil Größe, noble simplicité et calme grandeur, et toute une esthétique qui est, de fait, celle de la domination. Alors, liée à quoi ? À des choses pas drôles, et que lui essaie de valoriser, eh bien, le fait qu'il n'ait plus la possibilité de réaliser un programme extrêmement complexe qui était le sien à l'origine, et qu'il arrive à ce qu'il appelle un démembrement. Vous voyez ce mot très fort de démembrement. Ces parties qui étaient faites pour être unifiées sont à nouveau dissociées, selon une métaphore qui dit, je crois, assez bien la violence de ce qui se passe ici. Et ce qui est également très intéressant, c'est de voir qu'au-delà de ces déforts, de ce démembrement, eh bien, il y a la volonté de s'inscrire dans la mise en tension entre les traits universels, nécessairement universels, du portrait du roi de façon générale, parce qu'il doit justement, encore une fois, être situé au-delà de toute critique, au-delà de toute mise en cause de cette unité, mais en même temps, phénomène de fond associé au XVIIIe siècle de la sécularisation, là aussi, pardonnez les étiquettes dans ce qu'elles ont de simple, c'est la prise en considération du local, de ce qui est spécifique, de ce qu'on appelle le vernaculaire, par rapport à l'universel, et par exemple la langue vernaculaire par rapport à la langue véhiculaire qui est le latin ou le français dans l'administration, et on arrive à une réflexion d'un Sali sur les costumes, est-ce que je lui mettrais le costume des anciens habitants du Danemark, les cimbres, puis non finalement, alors que Henri IV, on le fait à Pau, il y a une dédicace en navarrais. Il n'y en a pas beaucoup, hein. J'étais content de la trouver, celle-là. Mais le caractère générique, c'est le latin. Il y a un débat sur un vernaculaire à l'échelle de la France. Vous voyez qu'on peut encore, dans certains cas, un peu spectaculaire, descendre à une échelle inférieure. Et en tout cas, c'est la grande question de la vérité qui se pose ici. Je ne dis pas réalité parce que c'est un terme qui n'existe pas à l'époque moderne. Quelque chose, on dirait aujourd'hui, est réel, on dit à l'époque, c'est vrai. Et il y a des débats tout à fait fascinants sur cet anneau. Alors, vous voyez, on pourrait passer devant, dire, bon, c'est gentil, mais c'est un anneau. Hein. Bon. Or, ce n'est pas seulement un anneau, c'est dire, regardez comme je suis original, et il tient à l'être, hein, toujours original, la grande catégorie du XVIIIe siècle, parce que, eh bien, c'est comme dans le comme si c'était vrai, vous voyez, il y a un édicule en marbre, je pose dessus avec un vrai crochet et puis un vrai anneau, un panneau de bronze, alors que d'habitude, on ne se pose pas la question, on met le panneau, ce qu'on appelle une table d'attente, et ça ne fait pas question. Or, ici, eh bien, on voit un Sali qui est comme obsédé par ce qu'on appellerait à d'autres temps, et dans ce lieu même, un effet de réel, hein, je pense évidemment à Roland Barthes, ce qui est réel, c'est vraiment que la chose est vraiment accrochée. Et vous voyez bien l'enjeu là-dedans, c'est une suspicion qui commence à naître très nettement vis-à-vis des discours de type universaliste que j'ai évoqués et la volonté d'avoir un vrai roi, d'avoir un vrai monarque qui est représenté dans sa vérité, alors même qu'on sait que sa vérité, justement, dans son cas, est légèrement problématique, c'est que se développe tout un mouvement de contestation, vous le savez, hein, vis-à-vis de la chose, si ce n'est de la monarchie, le principe, mais vis-à-vis du roi, de certains rois. Et si je vous montre celui-ci, c'est qu'il fait l'objet eh bien, de toutes sortes de critiques et de bons mots comme celui-là. Oh, la belle statue ou le beau piédestal, les vertus vont à pied et le vice à cheval. Bon, alors ces vers de Mirliton ont l'intérêt de nous rappeler que ça n'est absolument pas parce que le pouvoir veut créer un effet d'évidence, d'une unité, etc., que c'est le cas. Au contraire, il y a d'abord la volonté des artistes de créer ces étranges choses. Ces centaines de dessins produits par Bouchardon montrent l'intérêt qu'il a, du casier artistique, vis-à-vis de cela. Et puis surtout, il y a une tension profonde entre le dédicateur et le dédicateur, le dédicataire et le dédicateur, c'est-à-dire dédicataire, celui qui est honoré par la dédicace qui se trouve devant, vous la voyez ici par exemple, et puis les dédicateurs, en gros ceux qui paient, de fait on voit très souvent une mise en valeur de l'un et de l'autre, hein. Ici le le roi est honoré, mais à l'arrière, eh bien, c'est cette compagnie des Indes orientales qui l'est, et c'est le cas, vous le voyez, hein, c'est ce qu'il y a à l'arrière, ce qui negotiationis asiaticae, puisque c'est le nouveau nom de cette compagnie des Indes orientales, la compagnie asiatique, qui est ici mise en valeur. Et puis, autre signe que décidément les affaires deviennent problématiques, plus sérieux, qu'il y a une conception de la monarchie telle qu'elle récupère les notions de mérite, de travail, les notions bourgeoises, hein, qui vont justement l'emporter à partir du XIXe siècle, par des projets comme celui-ci, quand Étienne-Pierre-Adrien Goua propose de rajouter en 1780 à la statue bien connue de Henri IV, que nous avons vu, un Sully qui est devant. Il n'y a pas de raison de ne pas dire que le vrai travail n'est pas fait par tel ou tel, vous voyez ? Comment une logique de l'honneur, de la gloire, vient rencontrer une autre logique qui est censée être la nôtre, hein, du travail, du mérite, etc., et qui aboutit à ce genre de choses, à la transformation tout près de Copenhague, à Stockholm, d'un monument fait par un autre Français, hein, Pierre Hubert l'archevêque, par l'ajout de ce qui est devant, vous le voyez, Sergel, qui est son élève, rajoute eh bien, ce comte Oxenstierna, qui est de fait le Premier ministre, l'homme actif, et qui vient en contrepoint du premier monument. Et dans tout cela, eh bien, de cet effet de réel, hein, l'aboutissement, là aussi je pense que vous le connaissez, c'est cet extraordinaire piédestal de la statue de Pierre le Grand par Falconet, hein, puis qui est un vrai rocher que l'on passe beaucoup de temps, avec beaucoup de difficultés, que l'on ramène dans la ville de Saint-Pétersbourg, avec là aussi la volonté eh bien, de dépasser ce qui pourrait être considéré comme une simple rhétorique désormais tournant à vide. Alors, cela veut dire que, et c'est mon troisième et dernier point, que l'on doit prendre en considération eh bien, le fait que l'œuvre ne vaut pas en tant que telle. Elle vaut dans cette communauté dont parlait Kant, hein, et vous avez vu l'intérêt du terme, c'est qu'il permet de décrire, au-delà de ce que le terme a de trop politique en français, Gemeinschaft, hein, les liaisons qui existent entre les éléments de l'équipe qui réalise le piédestal, entre ensuite les éléments du piédestal, et puis ensuite, d'un point de vue là, plus nettement sociopolitique, à l'intérieur d'un ensemble où se situe la limite de cette communauté. Alors, tout et tour est ornate. Ah, le début a sauté, je suis désolé. Tout et tour est ornate. Hein. Cette formule qui figure sur un jeton de la ville de Paris de 1699, hein, produit à l'occasion de l'inauguration de la statue de la place Vendôme, a l'intérêt de mettre en exergue deux notions fondamentales de la valeur du monument, censée l'être, hein, c'est-à-dire elle protège et elle orne, dimension ancienne, propitiatoire, magique, etc., dimension moderne d'inscription dans les embellissements tels qu'ils se développent dans le Paris de l'époque, et tout cela pose la question qui est, je crois, essentielle pour notre maître commun, Louis Marin, qui était celle de la force. Et alors, Louis Marin, affinant tellement ses études, sait bien que l'œuvre ne fait pas effet directement, c'est au contraire de façon négative par ce qu'il appelle la réserve, c'est-à-dire la non-manifestation, que la manifestation du pouvoir est la plus efficace. Mais tout de même, moi, j'aurais tendance à me demander si, dans tout cela, il n'y a pas des mondes différents. Vous voyez, tous les polygraphes intellectuels, si j'ose dire, qui tournent autour des cercles de pouvoir, posent cette efficace de l'œuvre. Je n'en suis pas du tout persuadé en ce qui me concerne. Quand on regarde les textes, comme celui-ci, un texte critique hein, de Claude Le Petit, vous voyez comment il traite, en l'occurrence, le Henri IV. Hein. « Il faut aussi que je te raille, vieux héros califourchonné, pourquoi sers-tu là, roi Bernet, de passe-temps à la canaille ?» Les gens étant autour souvent de ce monument, comme aujourd'hui. Donc, hein, encore une fois, une attitude critique qui oblige à prendre une grande distance vis-à-vis de ce qui est posé comme la maîtrise, et j'ai choisi un exemple en rapport avec l'Europe, hein, puisque c'est ce bas-relief où l'on voyait, place des Victoires, Louis XIV associant l'Europe assise et la paix qui arrive hein, pour l'Europe, et également la nécessité du coup de penser quelque chose correspondant, si je reprends la dichotomie proposée par Kant, hein, cette communio spati, cet accord qui se fait entre les gens, et de fait, à partir du point qui est le monument, la manière dont on pense le lien qu'il a avec son environnement, lien centrifuge et centripète. Centrifuge, pourquoi ? Le roi voit comme Dieu, il voit tous ses sujets. Centripète, on voit le roi, on lui rend hommage lorsque l'on passe. Mais pourquoi est-ce que j'en suis à citer ce passage que, pour le coup, Louis Marin aimait tant, hein ? C'est qu'on rentre, je crois, peu à peu dans une autre logique au sein de laquelle on ne se satisfait plus de cette accumulation hétérogène, vous voyez, de motifs gratifiants, les bas-reliefs, les inscriptions, les statues. Non, c'est la question de la continuité. Comment le monument s'intègre dans cette continuité, vous voyez, qui est celle du monde dans lequel nous vivons, la continuité de l'immanence, comme on dit, en opposition avec cette obsession de la transcendance sur un modèle chrétien, un modèle religieux, qui prévaut lorsqu'on parle du roi. Et se rappeler la naissance du calcul infinitésimal dans la deuxième moitié du XVIIe, cette idée d'une continuité des perceptions, de cet effet, on dirait, de zoom avant, vous voyez, que décrit Pascal ici, à partir de la totalité qu'est la campagne, et puis après on se rapproche, les maisons, les arbres, les feuilles, etc., les fourmis, les jambes des fourmis, eh bien, cette évolution sans solution de continuité, comme on dit, est très importante, me semble-t-il, pour penser ce qui va se développer plus tard au XVIIIe siècle, c'est-à-dire une pensée de l'adéquation entre le pouvoir tel qu'on essaie de le représenter, et puis une nouvelle dimension, le territoire. Ce territoire, alors, qui prend une forme habituelle et très ancienne, elle remonte à Vitruve, autour de la figure de Dinocrate, enfin de ce colosse, que proposait un architecte à Alexandre le Grand, un colosse taillé dans le mont Athos, mais peu à peu, des modèles plus complexes, comme à Brest, hein, Jaillet de Savo et Houdon proposaient, vous le voyez, décidément, je n'ai pas de pointeur, mais au bout de la presqu'île, non ? De la presqu'île, il y a une sorte de cercle, de cible, et c'était une tour, on disait la tour de César, et on proposait de mettre la statue du bon roi Louis XVI sur un mauvais César. Tout d'un coup, César devenait le méchant, et au-dessus, il y avait le bon, et toute cette stratification traduisait en un petit espace l'évolution de l'humanité, vous voyez, au travers des règnes, jusqu'au bon roi. Et cette métaphore archéologique est fondamentale parce qu'elle va permettre de réfléchir à une nouvelle manière de dire la grandeur du royaume sans passer par la figure du roi. C'est développer un ordre français comme ce Ribard de Chamou qui utilise les arbres, hein, cette idée d'une genèse à partir du sol national qui se fait. J'ose, je vis dangereusement, mettre en rapport ce que nous avons évoqué, la draperie flottante au-dessous, la picciola basa qui était en dessous, et le vrai traumatisme, vous voyez bien ce glissement du côté du vrai, qu'a été en 1755 le tremblement de terre de Lisbonne, hein, qui a appris à tout le monde qu'on n'était pas grand-chose, et dont justement l'idée même du pouvoir de la monarchie et le développement de ce mouvement que je qualifie d'aniconique, hein, dont disparaît l'icône, la figure, mouvement aniconique, eh bien, se traduit par le fait que, un, il n'y a quasiment pas de réalisation de monuments à Louis XVI. Deux, quand il y en a, c'est ce genre de choses, hein, des représentations aniconiques, comme l'obélisque de Port-Vendre, représenté ici, et tout cela pris dans un mouvement général favorisant une transcendance qui passe par le jeu des formes pures, comme dans cet hôtel de l'Agathe-Tuquet, hein, du hasard ou du sort favorable que le jeune Goethe a créé dans les jardins de Weimar, et que, retour en Danemark, décidément je suis payé par l'office de tourisme, avec cet ensemble produit par le sculpteur Wiedewelt de Jægerspris, dans lequel il mettait les grands hommes de Norvège et Danemark, hein, c'était le même royaume, l'idée de cette pluralité désormais des pouvoirs, le respect du principe de mérite qui est ici présent. L'aboutissement en étant en France l'Élysée du musée des monuments français, dans lequel il y avait des tombes, des cénotaphes, hein, juxtaposés des grands hommes, et dont Pierre le Grand aussi rend compte de cette manière, clin d'œil à l'Europe. Quel autre en Europe présentera un spectacle aussi singulier, aussi piquant et aussi nouveau, et quel le Français ou l'étranger qui, voyant réuni ce que nulle part on a même projeté de recueillir, ne s'empressera de le connaître et accourra y étudier cette partie de notre histoire primitive qui d'ailleurs est l'histoire commune de l'Europe. L'histoire commune de l'Europe. Et c'est effectivement dans cet imaginaire d'une continuité qui serait celle d'un sol commun au sein duquel il y a en l'occurrence les tombes, mais également toutes sortes de choses, qu'il faut sans doute penser la nouvelle manifestation du pouvoir en étant conscient du fait que désormais une pensée s'élabore à toutes sortes d'échelles. On l'a vu, la place, la ville, l'État qui va devenir un peu la nation, et puis l'Europe, et puis un monde désormais abordé d'un point de vue scientifique avec ces très étranges monuments hein, que sont ces obélisques qui scandent la méridienne hein, que l'on a dessinée peu à peu en France, hein, des monuments des années 40, mais qui partent du schéma ancien de la méridienne, et donc la géodésie, comme on dit, la mesure de la Terre, rajoutant encore une autre couche, si j'ose dire, dans la réflexion générale sur le territoire et reléguant très loin de nos yeux la figure du monarque, clin d'œil à nos pas dans Paris, et les 160 hein, petites rondelles sous vos pieds décrivant le méridien et dû à Yann Dibetz en l'honneur d'Arago. Alors, finalement, dans tout cela, eh bien, on peut se demander si la meilleure des représentations de ce que j'essaie de dire pour la nouvelle modalité de la figure du pouvoir n'est pas une forme ancienne, hein, ce très fameux frontispice du texte fondamental en sciences politiques qui est le Léviathan de Hobbes par Abraham Bosse, et dans lequel il y a un effet de confusion qui s'opère entre un paysage, le monarque, les figures qui sont à l'intérieur et celles que l'on trouve encore plus précisément, mais en notant bien qu'il ne s'agit pas d'un monument, il s'agit d'une représentation, et c'est tout. Et tout ce que l'on a ensuite, eh bien, c'est la vulgarisation de cette image multiple du haut degré, je n'ose même plus dire de pouvoir, au travers des biscuits que l'on vend à la manufacture de Sèvres, représentant et disséminant un peu partout les grands hommes de la France à partir, disons, de 1777, hein, et tout cela, eh bien, se retrouvant au sein de ce grand mouvement qu'on appelle la Révolution française, hein, dans lequel se pose désormais en position de pouvoir cet acteur collectif qui est désormais présent, qui transcende, je crois, les oppositions entre homogénéité et hétérogénéité, la différence des individus étant dépassé au sein de cet ensemble, de cette sculpture négative, si j'ose dire, qui est le creusement du cirque à l'antique, rassemblant 300 000 personnes le 14 juillet 1790, hein, et dans lequel eh bien, tout le monde participe, ces dames de qualité et le roi et sa pioche. Et cette espèce de renversement qui s'opère par lequel eh bien, il y a un monument qui n'en est pas un, une figuration qui est absente, hein, sur l'autel il n'y avait aucune figure, il y avait juste la référence à un être suprême, enfin, qu'on ne disait pas comme ça, et au mieux s'il y a des figures, vous les voyez très nombreuses au-dessus de cet arc un petit peu extraordinaire que l'on voit au-dessus. Et tout cela ayant pour conséquence eh bien, la mise à bas sans aucun problème, je vous ai dit, à partir de la semaine du 10 août 92, de l'ensemble de monuments. Si vous conservez quelques traces au Louvre de ces choses-là, c'est comme c'est captif, c'est au nom de l'art, hein, parce qu'on considère que c'est de l'art, et c'est aussi parce que c'était les perdants, les captifs, et que du coup les révolutionnaires les considéraient comme des victimes, comme eux, de la monarchie. Alors, du coup, eh bien, qu'est-ce qui reste ? Pas grand-chose. On a, je vous dis heureusement, un monument conservé place Amalienborg à Copenhague. Et puis, si je vous montre ce Hammershøi qui est superbe, c'est pour se demander si finalement, dans tout cela, il n'y aurait pas la victoire de la deuxième dimension que j'ai associée à Kant, enfin que Kant nous proposait, cette communauté locale et non pas cette communauté dynamique des échanges, c'est en effet quelque chose de holiste, comme on dit, de global, qui prévaut une atmosphère, une ambiance troublante. Hein, toutes ces choses étudiées par les grands savants, Erika Orbach et autres, hein, cette atmosphère qui prévaut pour dire quoi ? Ben, la distance vis-à-vis d'un pouvoir qui est délaissé par qui que ce soit, vous voyez, c'est totalement désert alentour, et du coup, eh bien, il nous reste peu de choses pour essayer de nous retrouver dans tout cela. Décidément, vous voyez, encore le Danemark, j'ai un peu fait exprès, le Danemark prévaut, et à Paris même, puisque la Grande Arche, hein, je vous le rappelle, était la Grande Arche de la Fraternité, était censée assurer justement cette unité à l'échelle de l'Europe que nous essayons de décrire, quel qu'en soit le résultat, avec des effets tout à fait importants, les sources de l'Europe, il y avait un service justement sur l'Europe à l'intérieur qui évidemment a fermé ses portes, tout cela étant censé permettre la liaison avec la vieille culture française, selon un axe avec un décentrement de 6,30 degrés correspondant à celui entre la cour carrée et l'axe des Champs-Élysées, on le retrouvait à l'autre bout, eh bien, tous ces effets qui intègrent notre figure de départ, vous voyez, je ne suis pas sûr qu'ils soient perçus par le touriste moyen, par nous-mêmes. Et donc, c'est vraiment la question de l'efficace de tout ce que j'ai essayé de construire, du discours sur l'œuvre, sur le monument œuvre d'art, dans l'ensemble de ces réalisations qui pose problème, savoir quelle est la bonne échelle. Est-ce que c'est, encore une fois, la place, la ville, le pays, l'Europe ou autre chose, selon quel régime cet échange, hein, ce commercium, au contraire cette fusion, cette communion, donc une impossible et nécessaire communauté que serait l'Europe, mais à quelle échelle, encore une fois, est-ce que c'est l'Europe ou est-ce que c'est le monde ? Je vous remercie.
Merci beaucoup, Étienne Jollet, pour cet exposé tellement riche qui vient compléter, mais aussi mène beaucoup plus loin ma propre réflexion dans la leçon sur Bernini. Puisqu'on y est, je voudrais revenir à l'image d'ouverture, à l'image de clôture, qui est Marcus Curtius. Voilà. Alors, merci de l'avoir montré, d'avoir parlé. Peut-être qu'il faudrait en parler un peu plus parce que c'est un monument qui pose vraiment un problème. Je le laissais de côté justement en parlant de Bernini à Paris parce que c'était une de ses œuvres polémiques qui n'a pas abouti. Le portrait équestre de Louis XIV qui n'a pas plu. Ma question est la suivante. Donc, je fais référence justement à ce que vous dites, la statue est le lieu, donc l'environnement. Alors on sait très bien que cette statue n'a pas plu, elle a été exposée longtemps au Versailles, mais moi je dirais presque pas comme monument public parce qu'elle était presque cachée au fond du jardin, personne ne la voyait. Moi je me rappelle il y a des années, j'ai dû lutter avec les gars pour pouvoir approcher cette statue, on ne la voyait pas. Donc c'était un monument en intention publique, mais qui était cachée par le déménagement là où elle est maintenant, Louvre, beaucoup de choses changent. Comment est-ce que vous voyez donc aussi cet aspect de politique artistique, donc la statue à l'endroit aujourd'hui ?
Oui, c'est tout à fait la question. Je crois que Simone Hogg, qui avait fait un excellent petit livre sur cette statue, avait trouvé la formule délicieuse. Le Louis XIV du Bernin, deux points, une statue déplacée. Bingo, parfait. Puisqu'on entend tous à la fois le déplacement dans l'espace et puis le fait qu'il n'y ait pas convenance, comme on dit dans la rhétorique de l'époque moderne, ça ne va pas. Ça n'est pas adéquat à l'identité de la personne représentée, puisqu'on trouvait que toutes sortes de traits ici posaient problème. Donc on connaît bien l'historique de la chose. Il propose en 1665 cette statue. Il commence à y penser en 1667. Il fait réaliser concrètement la chose par les élèves de l'Académie de France à Rome de 1671 à 1673. Et puis il faudra attendre 1685 pour que ça arrive arrive à Paris. Vous voyez, on était très pressés. Et là, immédiatement, le roi dit « Niet, ça ne va pas ». Et 2 ans après, Girardon, le grand sculpteur, refait la base, fait passer de cette montagne, je vous l'ai dit, allégorique, de l'ensemble des obstacles, des adversités que rencontre tout grand homme, c'est un topos, évidemment, à ce Marcus Curtius, l'homme qui se sacrifie pour Rome en se jetant dans un abysse plein de flammes, qui est représenté ici. Donc, vous voyez, une logique et une tension au moment même de sa création, si j'ose dire, le règne de Louis XIV. Et puis aujourd'hui, il serait fabuleux, alors je pense que Simone Hogg a dû le dire, de savoir dans quel cerveau et quel hémisphère du cerveau de tel haut fonctionnaire Louis XIV a été choisi pour avoir cette position emblématique.
Personnellement, j'aurais d'autres questions parce que votre exposé était tellement riche, mais peut-être qu'il y a des questions ou des remarques, des commentaires dans la salle. Alors...